Chapitre 15. Brigitte, arrivée à Tower Hill, renvoya son cab et marcha à l'aventure devant elle. Le hasard l'avait bien servie. Elle était dans un quartier assez tranquille, du moins dans une partie du quartier habitée par des gens paisibles qui rentraient chez eux en jetant un regard curieux sur la jeune fille, facile à reconnaître pour une étrangère. Obligée d'agir, elle conservait encore son sang-froid et comprenait la nécessité urgente de chercher un asile. Les horloges sonnaient 7 heures, et bien qu'à cette époque de l'année les journées soient très longues, le temps pressait pour s'abriter. Elle était entrée dans une rue avec l'espoir d'y trouver un hôtel convenable. Mais elle marcha longtemps vainement entre 2 rangées de maisons basses et uniformes. Les boutiques étaient nombreuses, d'apparence simple, et les écriteaux indiquaient souvent des chambres meublées à louer. Cette vue suggéra à Brigitte l'idée de se réfugier dans une de ces chambres. Elle se sentait envahie par une lassitude irrésistible, aspirait à être seule, dans un endroit sûr, pour réfléchir à son malheur et à sa situation. La pensée, juste ou non, qu'elle serait plus en sûreté, mieux cachée dans une maison particulière, la décida. Elle entra dans une boutique et demanda la propriétaire. « C'est moi, Madame Smith !» répondit une femme au regard effronté, mais sans méchanceté. « Voulez-vous me faire visiter la chambre que vous avez à louer ?»« Ce n'est pas pour une lady. »« Voulez-vous me faire visiter ?» répéta Brigitte, du ton monotone de ceux qui sont trop fatigués pour chercher une autre phrase. Après un peu d'hésitation, Madame Smith fit monter Brigitte par un escalier bien tenu et l'introduisit dans une petite chambre meublée succinctement, mais d'une propreté indiscutable. « Elle vient d'être blanchie, » dit la marchande. « J'y serai bien, » dit Brigitte. « Voulez-vous me la louer à la semaine ?»« À vous, pour vous, mais je ne la loue qu'à des ouvrières. » « Qu'importe ma qualité, je dois rester quelques jours à Londres et j'ai des raisons particulières pour me loger dans ce quartier. » Madame Smith l'examinait avec un étonnement et une hésitation qui achevait de désoler Brigitte, accablée, effrayée à l'idée de recommencer à errer dans la rue. « Puisque je vous paie à l'avance, vous ne risquez rien, » dit-elle, « et je suis fatiguée au point de ne plus pouvoir marcher. » Cette dernière considération décida la propriétaire, assez bonne femme au fond et intéressée par l'aspect délicat de la jeune fille. « Allons, c'est comme vous voudrez. C'est la première fois que vous venez à Londres. »« Oui, j'y suis égarée. »« Je le vois bien, » répondit Madame Smith avec un haussement d'épaule. « En tout cas, vous n'aurez pas à aller loin pour acheter des œufs et du beurre. J'en ai dans ma boutique et plusieurs choses encore si vous voulez. » « Plus tard, certainement, je descendrai chercher ce dont j'aurai besoin. Merci mille fois. » La marchande aurait bien voulu causer, mais l'attitude de Brigitte lui fit clairement comprendre qu'elle devait se retirer. Elle descendit dans sa boutique, où elle se perdit en conjectures, aboutissant à cette conclusion très juste. « Une jeune lady française qui a fait quelques sottises, mais cela ne me regarde pas. » Enfin, en sûreté, Brigitte enleva son chapeau, prit machinalement quelques arrangements. Puis, la réaction s'imposant tout à coup, après la crise et l'effort énergique des heures précédentes, elle s'abîma dans le désespoir. Chose singulière, la perfidie de Laurent se dressait devant elle, dans les détails de la vie à Noirpin, avec beaucoup plus de vivacité que dans la terrible scène révélatrice. La honte empourprait son visage au souvenir de ses propres aveux, au souvenir des heures passées à écouter des paroles qui la ravissaient. Elle voyait le jeu trompeur de Rudal dans toutes ses nuances, surtout dans les fêtes qui lui avaient été particulièrement doux. Elle avait l'impression désolante que tout était fini pour elle, que jamais elle ne surmonterait une épreuve dans laquelle s'effondraient son cœur et sa dignité. Son énergie était tombée, et l'amertume de sa position la frappait avec une vivacité exagérée qui ne lui permettait plus d'envisager les décisions à prendre. Elle sanglotait avec un découragement sans bornes, et quand elle se jeta sur son lit, autant par mouvement désespéré que par lassitude physique, la prostration s'empara de ses membres et de ses facultés. Lorsqu'elle reprit possession de ses sens, elle n'était pas seule. Une jeune femme lisait près de la fenêtre et s'approcha du lit au mouvement que fit Brigitte pour se soulever. « Qu'est-ce donc ? Où suis-je ? » demanda la jeune fille en français. « Je ne vous comprends pas. » Mademoiselle Déponet répéta la question en anglais. « Vous avez été malade. Heureusement, vous voici mieux. »« Qui êtes-vous ? » ?»« Une ouvrière, votre voisine. J'habite à la chambre à côté. Je vous ai entendu gémir et je suis entrée hier matin dans votre chambre pour vous offrir mes services. »« Hier matin ? À quel jour sommes-nous donc ? » ?»« Dimanche. » Les détails matériels achevèrent de dégager du brouillard le cerveau de Brigitte. Mais, au souvenir du malheur qui l'avait conduite dans cette chambre inconnue, une émotion profonde altéra son visage. Elle voulut se dresser complètement, mais, courbaturée, elle retomba sur son lit. « Il faut vous reposer et ne penser à rien, » lui dit l'ouvrière. « Ne penser à rien, » répéta Brigitte avec désespoir. Après un moment de réflexion, elle demanda « C'est vous qui m'avez couché ? Je ne me rappelle pas l'avoir fait moi-même. »« Oui, vous étiez sur votre lit. C'est moi et la propriétaire de la maison. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes entourée de gens qui ne vous feront aucun mal et je veillerai sur vous. »« Comment vous appelez-vous ? » ?»« Mary Wilson. » »« Mary Wilson, c'est un nom dont je me souviendrai toujours. » répondit Mademoiselle Déponet avec émotion. Le médecin que nous avons fait venir. Un médecin ? Interrompit-elle avec un effroi maladif. Pourquoi un médecin ? Qu'a-t-il dit ? Que votre état, sans gravité aucune, venait d'une secousse morale et que vous irez bien quand vous aurez dormi profondément. Il a ordonné une potion. Voulez-vous la prendre ? Brigitte accepta sans résistance et tomba bientôt dans un sommeil qui se prolongea jusqu'au lundi matin. Se sentant reposée, elle se leva et terminait sa toilette quand l'ouvrière entra dans la chambre. « Levée ? Je me sens bien mieux, » répondit Brigitte qui luttait contre la faiblesse. Mary Wilson regardait avec un intérêt étonné cette Française dont l'apparence distinguée la frappait vivement, beaucoup plus qu'en la soignant. « Je n'aurai jamais assez de mots pour vous remercier, » lui dit Brigitte en lui prenant la main. « Jamais !»« Une autre en eût fait autant, » répondit simplement l'ouvrière. « J'ignore si on rencontre un bon cœur sur sa route aussi souvent que vous le supposez. Mais je sais que je vous dois beaucoup à vous et que ma reconnaissance ne sera jamais assez bien exprimée. »« Eh bien, » répondit Mary en souriant, « j'accepte que vous gardiez un bon souvenir de moi quand vous serez dans votre pays. Mais vous pâlissez ? J'ai besoin de manger, je crois. Je suis très faible. Oh, stupide que je suis ! Attendez, ce ne sera pas long. » Brigitte lui donna sa bourse et un quart d'heure après, elle revenait avec un déjeuner froid et la théière traditionnelle. « Vous allez prendre ce repas avec moi, » lui dit Mademoiselle Déponet. « Mais vous êtes une lady, » répondit Mary avec une sorte de timidité. « Une dame, une pauvre fille seule que vous avez secourue et qui vous regarde comme son amie. Je vous le prouverai en vous racontant mon histoire et vous me donnerez peut-être un bon conseil. » Elle déjeuna silencieusement et, réconfortée, se sentit tout à fait maîtresse d'elle-même. En quelques mots, elle instruisit sa compagne. « J'ai quitté ma maison de France pour venir me marier en Angleterre, mon père refusant son consentement. Et, en arrivant ici, celui auquel je m'étais fiée m'a déclaré qu'il était déjà marié. Je l'ai chassé et j'ai fui. »« Oh, l'horrible homme !» s'écria Mary. « Il n'était donc pas un gentleman ?»« Je le croyais tel, » répondit Brigitte en rougissant, « et tout le monde s'y trompait. » Elle fut sur le point de rectifier sa phrase en pensant à Duras, mais elle s'abstint, n'ayant point à entrer dans les détails de sa triste aventure. Elle fut soulagée par la manière dont Mary accueillit sa confidence. Ouvrière, elle ne pouvait juger au point de vue des convenances françaises et, indépendante, comme beaucoup de filles de sa classe, elle trouvait naturel l'acte de Brigitte. Loin donc de la blâmer, elle la plaignait d'avoir été victime d'une abominable trahison. Mais, bien femme et intéressée par cet amour trompé, elle demanda « Vous l'aimez encore ?»« L'aimer ? Comment voulez-vous ? Je le méprise !» Miss Wilson ne comprit qu'à moitié la psychologie contenue dans cette réponse. Elle aimait et croyait que rien, même la trahison, ne pourrait détruire son amour. Elle observait Brigitte qui, perdue dans ses souvenirs et ses inquiétudes, oubliait la présence de sa compagne. « Il faut prendre un parti, » dit Mary en lui touchant le bras. « Oui, j'y réfléchissais. Retournez tout de suite en France. N'est-ce pas la seule chose à faire ? Avant, je vais écrire. Il faut que je connaisse les dispositions de ma famille. Puis partir seule, je n'ai qu'à le rencontrer. » « Mais, répondit Mary, il doit y avoir un moyen de vous adresser à des compatriotes pour être protégé. » « Probablement, dit Brigitte d'un ton fatigué et découragé, mais je ne le connais pas. » Mary était une femme de 30 ans, d'un sens pratique assez développé, ayant eu à lutter fort jeune avec des difficultés matérielles. Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps pour indiquer la marche très simple à suivre. « Le patron qui me fait travailler a pour ami un négociant français en ce moment à Londres. Je le vois souvent dans le magasin quand je vais porter mon ouvrage. Il est bon, dit-on, et pourrait vous conseiller sur les mesures à prendre. Laissez-moi lui parler de vous. » Il répugnait extrêmement à Brigitte de raconter son histoire. Elle craignait le doute sur son honorabilité et eût voulu agir sans intermédiaire. Mais, soit fatigue physique, soit accablement moral, elle se sentait sans force, sans ressort, et comprenait qu'une protection lui était bien nécessaire. Elle ne s'était pas arrêtée à la pensée d'envoyer un télégramme à son père, ne pouvant rien expliquer par dépêche, comme l'avait bien prévu Durand, et, avant d'écrire, ayant perdu sa belle confiance dans les sentiments favorables de M. Déponet, elle voulait lire la lettre qui devait, pensait-elle, être arrivée à Londres. « Décidez-vous, lui dit Mary. Je crois vous donner un sage conseil et voici l'heure où j'aurai chance de rencontrer ce négociant français. »« Faites comme vous voudrez, répondit Brigitte. Mais ma lettre ?»« Quelle lettre ?»« Une lettre de mon père doit m'attendre dans un bureau de poste du Strand. Pendant votre absence, j'irai la chercher. »« Êtes-vous assez bien pour sortir ? C'est loin d'ici. » « J'irai et reviendrai en voiture. De cette façon, une promenade me fera plutôt du bien et je ne cours aucun risque d'être rencontré. » Malheureusement, le hasard avait mis Rudal sur la voie. Le cocher du cab appelé par Brigitte connaissait les gens de l'hôtel agités par l'événement. Il était du quartier et on le demandait souvent pour des voyageurs. Le samedi soir, comme Rudal, après s'être lancé désespérément à la recherche de la jeune fille, rentrait découragé, il trouva à la porte de l'hôtel le cocher qui, causant avec une servante, venait d'apprendre la fuite de Brigitte. « J'ai conduit hier une jeune Française, » dit-il à Laurent. « Où l'aviez-vous rencontrée ?»« À 10 minutes d'ici, monsieur, vers 5h30, je crois. Elle s'est fait conduire dans Tower Hill sans me donner un nom de rue. » Puis elle m'a renvoyé et je l'ai vu qui marchait comme une personne indécise. Ces renseignements étaient trop précis pour que Rudal eût aucun doute. Il avait donné au gérant des explications qu'on avait trouvées ou fin de trouver plausibles et chacun, dans la maison, s'intéressait à ses recherches. Mais l'heure avancée, ne lui permettant pas d'aller dans le quartier éloigné de Tower Hill, il attendit au lendemain pour se faire conduire de bonne heure en l'endroit précis où Brigitte était descendue de voiture. Il n'eut pas un instant la pensée qu'elle avait pu se réfugier dans une maison particulière. Il entra dans différents petits hôtels voisins de la rue où elle avait trouvé un asile et posa vainement partout la même question. Il s'en allait découragé une fois encore et sur le point de renoncer à sa poursuite quand il se rappela l'adresse du bureau de poste donnée par lui à Brigitte. « Comment n'y ai-je pas songé plus tôt ?» se dit-il. « Si elle est encore à Londres, et elle doit y être, elle enverra chercher sa lettre ou viendra la retirer elle-même. Il faut agir de ce côté. » Il alla aussitôt au bureau, sur le point d'être fermé. « Oui, monsieur, répondit-on, une lettre est arrivée aujourd'hui pour Mademoiselle Desponey, mais nous ne pouvons la remettre qu'à la destinataire. » « Assurément, répliqua Rudal, mais Mademoiselle Desponey désirait être prévenue afin de ne pas se déranger inutilement. » Il résolut, après cette démarche, de ne pas quitter le lundi les abords du bureau. « À présent, j'ai l'espoir de la découvrir. Elle pensera certainement à retirer une lettre qui a pour elle une grande importance. » Après 3 heures d'attente, le lendemain, il aperçut Brigitte dans un cab. Étourdie et fatiguée, elle descendit précipitamment en arrivant au bureau et demanda timidement la lettre. « La voici, mademoiselle, lui dit l'employé, mais nous ne pouvions pas la donner à la personne que vous avez envoyée hier. »« Je n'ai envoyé personne. »« Ah, je croyais. Le monsieur parlait en homme sûr de lui. » Aussitôt, Brigitte vit quelle imprudence elle avait commise en n'envoyant pas à sa place un émissaire. Effrayée, elle regarda autour d'elle, mais ne vit Laurent ni dans le bureau, ni dans la rue. Il se dissimulait dans un cab, après avoir donné ordre à son cocher de suivre la voiture de Brigitte. Pendant ce temps, Mary remplissait promptement sa mission. Jeune, confiante et serviable, c'était avec une sorte d'enthousiasme qu'elle s'empressait d'agir pour Brigitte, dont l'aventure la passionnait. Comme elle s'y attendait, elle rencontra le négociant français dans le magasin et demanda de l'entretenir un moment. Monsieur Martel était un homme d'âge moyen, d'aspect commun, assez brusque dans ses manières, mais très apprécié au Havre pour son intelligence et son honorabilité. « Me parler, à moi ?» dit-il étonné, car aucune ouvrière de la maison ne le connaissait assez pour être en rapport avec lui. « Oui, monsieur, il s'agit d'une affaire bien particulière, d'une jeune Française dans la peine. »« Ah, voyons cela !» Elle lui raconta l'histoire de Brigitte. « Vous a-t-elle dit son nom ?»« Non, mais c'est une lady. » Le premier mouvement du négociant avait été de croire qu'il était question d'une aventure trop connue et bien banale. Mais le dernier mot de Mary attira particulièrement son attention. « Une dame, dites-vous ? Oh oui, une lady très distinguée. Dites-lui de s'adresser au consul français. Il la protégera, si c'est là ce qu'elle désire, et la fera rentrer en France dans les meilleures conditions possibles. Où trouver ce consul ? Ah, c'est juste. Elle ne sait rien, ni vous non plus. Après tout, dit-il en tirant sa montre, je puis aller la voir. » Dans 1 heure, j'y serai et lui donnerai verbalement les renseignements qui lui seront utiles. » Mary partit sur cette promesse. Assez intelligente, pour saisir que M. Martel ne partageait pas sa confiance, elle se sentait un peu honteuse pour Brigitte. Mais, à son retour, elle fut accueillie et remerciée avec tant d'effusion que son impression fâcheuse se dissipa. Après avoir lu, avec un battement de cœur, les lignes blessantes de son père, Brigitte avait posé sur sa table la lettre tout ouverte. Ses yeux rougis et son attitude désolée étaient trop expressifs pour que Mary n'en fût pas attendrie. « Cette lettre vous a fait beaucoup de peine ? » demanda-t-elle. « Oui, je suis encore plus seule que je ne me l'imaginais. »« Mais vous avez des amis ? Écrivez-leur. Du reste, M. Martel sera bientôt ici et nous conseillera. » Brigitte rougit d'angoisse. Si son propre père la croyait assez coupable pour l'injurier, que penserait d'elle un étranger? Mais elle ne pouvait plus éviter une entrevue. « Je vous laisse, lui dit Mary. Oui, je vais écrire à une parente. Si je ne vous remercie pas autant et aussi bien que vous le méritez, pardonnez-moi. » Elle l'embrassa pendant que l'ouvrière répondait « Je serai dans ma chambre, vous m'appellerez quand vous voudrez. » Brigitte avait hâte d'être seule pour relire la lettre de M. Desponey et pour réfléchir. « Jamais, se dit-elle avec irritation, jamais je ne lui demanderai rien, ni pardon, ni appui. Que j'ai commis une faute, c'est vrai, mais suis-je donc une femme perdue pour recevoir de tels reproches? Et que dira-t-il quand il saura ? Un coup à sa porte changea le cours de ses idées. Elle crut à la visite du négociant et tressaillit en voyant Rudal. Heureusement pour elle, après la première impression douloureuse, la lettre de son père, en l'irritant, avait stimulé son énergie. Ensuite, elle savait qu'au moindre appel, Mary serait auprès d'elle et cette certitude lui donna de l'assurance. Mais, trop saisie pour parler, elle laissa à Laurent le temps de dire d'un ton suppliant « Brigitte, voulez-vous m'écouter ?» Elle se reprit aussitôt et répondit « Pourquoi m'appelez-vous Brigitte? Je ne vous reconnais aucun droit à cette familiarité. Il y a ici Mademoiselle Desponnets qui vous prie de sortir immédiatement. » « Du moins, laissez-moi me disculper. Qu'avez-vous donc supposé pour fuir comme vous l'avez fait? Vous n'aviez qu'un mot à dire et je vous aurais obéi. Mais quelle angoisse de vous savoir seule, si jeune, dans une ville comme Londres !» Brigitte regardait cet homme qu'elle avait aimé et soudain, sous l'influence d'une voix et d'une diction qui avaient eu pour elle un charme étrange, elle était envahie par les souvenirs d'un amour éteint en théorie, non en réalité. Les aveux, les échanges de pensées, les phrases douces, le bonheur poétisé, un instant possédé, parlaient à son cœur et l'amollissaient. Rudal, qui l'observait avec anxiété, devina une émotion sur laquelle il avait compté. « Je suis ici, dit-il en faisant un pas vers elle, un homme qui voudrait obtenir un pardon, non une autre faveur. Un pardon, une faveur, vous n'êtes rien pour moi. Rien ? Dites-vous vrai, celui dont vous consentiez à accepter le nom est-il vraiment si loin de votre pensée ? Le souvenir d'un malfaiteur ne peut influencer longtemps une femme qui a quelques soucis de sa dignité, répondit-elle dédaigneusement. Une fureur violente passa dans les yeux de Rudal. Pendant l'angoisse de ses recherches, qui l'avait exaspérée, pendant ses réflexions des deux jours précédents, il avait pensé, s'il retrouvait Brigitte, qu'il saurait se faire écouter et peut-être reprendre sur elle son ancienne influence. Mais le dédain, qui remplaçait si promptement l'émotion passagère dont il espérait profiter, le jetait dans une rage folle. « Prenez garde, dit-il d'une voix contenue, vous ne me connaissez pas encore si vous supposez que quelques injures me feront abandonner l'espoir qui m'a soutenu. »« Mary ! » cria Brigitte. L'ouvrière entra en même temps que M. Martel, qui frappait vainement à la porte. Il s'arrêta à la vue de Rudal et de l'attitude évidemment défensive de Brigitte, dont il avait entendu l'appel. Elle s'élança vers lui. « Monsieur, dit-elle, protégez-moi. Vous connaissez mon aventure. Voici l'homme qui m'a emmené à Londres pour m'épouser, alors qu'il était déjà marié. » Si M. Martel avait eu des doutes en écoutant le récit de Mary, l'aspect de Brigitte et son mouvement spontané les eussent dissipés. « Je suis venu pour vous rendre service, mademoiselle, » répondit-il avec une rondeur un peu brusque. « Vous pouvez compter sur moi. » « Il y a un malentendu, » dit Rudal d'un ton froid. « Moi-même suis ici, aujourd'hui, pour offrir à mademoiselle Desponnets de protéger son départ et m'effacer ensuite pour toujours. » « Quand vous êtes entré, monsieur, reprit Brigitte avec dignité, cet homme me menaçait et j'appelais Mary Wilson. » Le négociant, esprit pratique, absorbé dans ses affaires, bon mari, bon père de famille, ne s'était jamais trouvé mêlé à aucun roman. Mais prenant immédiatement son rôle en homme d'honneur, il dit à Rudal avec indignation « Cette demoiselle est désormais sous ma protection, et s'il le fallait, je ferais appel à la loi contre vous. » « La loi, répliqua Laurent avec ironie, elle ne peut rien dans les circonstances d'un ordre aussi privé. Je vous salue. » Il s'approcha de Brigitte. « Prononcez une parole de pardon, dit-il tout bas, ne nous quittons pas pour toujours sur un souvenir aussi pénible. » Mais elle détourna la tête et il partit sans obtenir un mot. Quand il ferma la porte, quand elle eut pleine conscience de son éloignement définitif, un brisement qu'elle ne croyait pas possible d'éprouver lui causa une souffrance aiguë. « Quel gredin !» s'écria M. Martel. Brigitte, les yeux pleins de larmes, luttait contre une émotion complexe, émotion que M. Martel remarquait avec étonnement, car nullement analyse, il eût été bien surpris si on lui eût dit que son exclamation, très naturelle, avait blessé la jeune fille. Il restait assez embarrassé devant elle, ne sachant quelle proposition lui faire. Mais elle prit très vite l'initiative. « Comment vous remercier ? » dit-elle en lui tendant la main. « Bah, ce n'est rien !» répondit M. Martel, ému du ton pénétré de Brigitte. « Cette jeune femme, ajouta-t-il en regardant Mary, a su m'intéresser à votre affaire. « Que me conseillez-vous ? Je ne puis pas rester ici !» Enchanté de prendre pied sur un terrain pratique, il répondit, après un moment de réflexion, « Non, certes, vous ne pouvez pas rester ici. Voici, ma chère demoiselle, ce que je vous propose. » Ma femme est avec moi à Londres, dans une pension de famille où nous avons l'habitude de descendre. Je vous conduirai auprès d'elle et vous resterez avec nous en attendant qu'on vienne vous chercher. Ainsi, sous notre garde, vous n'avez plus rien à craindre de ce monsieur. J'accepte avec la plus vive reconnaissance, répondit-elle. Nous rentrons en France dans 8 jours. Vous pourrez faire le voyage en notre compagnie si vous ne trouvez pas avant de meilleures combinaisons. « Soyez 1000 fois remerciée, mais on viendra sûrement me chercher. J'écrirai aujourd'hui. » Elle allait dire à mon père, mais elle s'arrêta. « J'écrirai chez moi, » dit-elle simplement. « Mais, reprit M. Martel, êtes-vous venu à Londres sans bagage? Je ne vois rien ici. » « Tout est resté dans l'hôtel où je suis d'abord descendu. Je n'avais emporté en fuyant que mon argent et quelques menus objets. » Pouvez-vous me donner l'adresse? J'enverrai chercher vos caisses aujourd'hui. Brigitte s'étonnait du plaisir évident qu'éprouvait M. Martel à entrer dans le détail de la situation. Malgré sa reconnaissance et la confiance qu'il lui inspirait, elle était au fond, mais très inconsciemment, froissée d'être traitée un peu comme une affaire. Elle partit, après avoir remercié Mary Wilson, dans les termes qui auraient à tout jamais détruit les préventions du négociant, s'il en avait eu encore. Il présenta Brigitte dans le Family House comme une jeune amie rencontrée comme par hasard et mécontente de l'hôtel dans lequel on l'avait engagée à descendre. Il lui posa quelques questions sur ses rapports présents avec les siens. « Vous n'avez pas encore détrompé votre père ?»« Je n'ai pas pu, ayant été malade. » Vous ne pensez pas qu'il vienne, ne recevant aucune nouvelle ? Non, répondit-elle en pensant à la lettre reçue le matin. Il me croit mariée. Et sans doute, il est très mécontent, très irrité. C'est naturel, ma chère demoiselle, c'est naturel. Comptez-vous sur des parents, des amis ? J'écris à une cousine qui viendra ou qui enverra quelqu'un. Vous ne pensez pas que son inquiétude l'engage à venir d'elle-même ? Vous ne croyez pas qu'elle ait pu apprendre la coquinerie de ce Rudal ? Non, je ne crois pas. C'est peu probable, en effet. Cependant, comme la démarche ne coûte rien et peut avoir son utilité, je vais déposer votre nom et votre adresse au consulat français sous le prétexte que des amis peuvent venir la demander. Je m'en rapporte absolument à vous, mais personne ne viendra et demain, ou plutôt après-demain, ma cousine connaîtra par moi mon aventure. Elle agira aussitôt, j'en suis certaine, soit sur mon père, soit en m'envoyant chercher de son autorité personnelle.